Radio Copie, Grand Canyon.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Emmanuel Colohan-Lokitala, chercheur responsable du Centre de recherche des énergies renouvelables. Emmanuel Colohan-Lo, bonjour.
Bonjour madame.
Vous allez bien?
Je vais bien, merci.
Voilà, avec vous dans cet entretien, nous parlerons de vous. Nous parlerons également de votre innovation dans le domaine d'énergie renouvelable, mais également de votre invention. Commençons par une petite biographie de vous. Qui est Emmanuel Colohan-Lo? Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous?
Emmanuel Colohan-Lo.
C'est difficile de parler de soi-même.
Voilà, très difficile. Mais
je vais vous aider. Okay, vous êtes né où et quand?
Je suis né à Lubumbashi, le 25 mai 1971.
Père de combien d'enfants?
Père de 4 filles.
Et ça, à Lubumbashi, vous faites vos études?
Non. Et très tôt, je suis reparti chez moi, au Sankoro, à l'école primaire déjà. On nous a renvoyés par les parents. Nous sommes allés étudier au Sankoro, à Tumbe.
Pourquoi?
C'est toute une question de langue. D'abord, pour le papa, tout le monde parlait swahili et personne ne parlait tétéla. Et le papa a dit non, on aura plus encore d'enfants avec ma femme, donc tu prends le plus jeune et 5 autres grands frères. On nous a envoyé au village.
Ce sont sur vos études universitaires.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Donc, j'ai commencé par les études économiques, sur mon Sankoro à Lodja, à l'Institut supérieur agronomique de Lodja. Comme à l'époque, on trouvait que l'agriculture n'était plus tout ça.
Pourquoi avoir choisi de faire l'agronomie à l'université?
C'était ma vocation. C'était vraiment une vocation d'être beaucoup plus docteur vétérinaire. Voilà. Et quand il n'y avait plus de boulot, tout ça, j'ai dû reprendre encore mes études. Cette fois-ci, en gestion bancaire.
Dans quelle université?
Dakar, Bangladesh.
Emmanuel Colohan-Lo, votre nom a une signification particulière?
Oui, une signification familiale et qui veut dire tout simplement qu'on n'a pas reconnu les bienfaits. Voilà, tout ce qu'on fait, la société ne reconnaît pas. C'est ce que ça veut dire en tout cas, en partant chez moi.
Et tout ce que vous faites, la société ne reconnaît pas?
Bon, ça c'est le nom que mes parents m'ont donné, c'est leur, c'est eux qui m'ont donné ce nom-là. Je ne dirais pas parce que je suis là devant vous.
Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance?
Ah, le village. Le village. Les rivières, les forêts, les nuits. Voilà. Ça, c'est vraiment une grande souvenir pour moi que j'aimerais encore reprendre un jour.
Vous préférez la vie au village qu'en ville?
À 100%, madame. Et j'ai orienté mes études à cela aussi. Si j'ai mené des études en microcrédit et aux énergies renouvelables, c'est parce que j'ai pensé sur moi qu'on n'avait pas de carburant. Nous, par exemple, là-bas à Tumbe, le pétrole qu'on devait utiliser dans les labs pour étudier venait rarement tous les 3 mois. Heureusement qu'il y avait la diocèse de Tumbe, le prélat, et là on pouvait s'approvisionner. Voilà. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, tiens, ici en Asie, il y a l'énergie rurale qu'on n'a pas chez nous. Voilà.
Il faut parler anglais.
Yeah, that's my. I try to speak. It's my first language.
Radio Café, Grand Témoin.
Emmanuel Colohan-Lo-Chikala, chercheur responsable du Centre de recherche des énergies renouvelables, est celui qui, Grand Témoin, vous fait découvrir aujourd'hui. Alors, parlons de votre innovation. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par énergie renouvelable?
Madame, c'est une question d'actualité maintenant. Les énergies renouvelables, ce sont des énergies alternatives. Que les scientifiques, l'Occident, les hommes avertis ont trouvé très important pour notre planète, puisque depuis l'an 2000, il y avait à Kyoto une conférence qu'on appelle conférence de Kyoto, qu'on a démontré publiquement que l'énergie fossile, qui est l'énergie qu'on tire sous la terre, les carburants, le mazout, le pétrole, était très néfaste à notre planète. Alors, les énergies renouvelables, ce sont des énergies, en fait, qui ne polluent pas, d'abord, notre atmosphère, l'environnement ou l'écosystème. Et ce sont des énergies qui sont renouvelables. Ça veut dire que nous les tirons. Je donne un exemple simple, le soleil. Quand vous utilisez les panneaux solaires, c'est une énergie renouvelable non-stop. Le soleil ne s'arrêtera jamais. Ça ne va pas s'épuiser. Par contre, selon les chercheurs, qui parlent du monde, on dit que d'ici 50 ans, la Golfe Persique n'aura plus de carburant à tirer sous la terre. Mais par contre, les énergies renouvelables, le soleil nous donne l'électricité à partir des panneaux solaires, le biocarburant, ce sont des énergies qu'on tire à partir des arbres, des feuilles, des écorces et des fruits. Alors, on peut planter, replanter, c'est un peu ça qu'on appelle énergie renouvelable. Aussi, il y a l'énergie qu'on tire du vent, l'éolienne. Le vent ne s'arrêtera jamais. Voilà, madame.
L'exemple, là, vous avez donné des exemples des énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'énergie non renouvelable?
Ce qu'on appelle l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est le carburant, le mazout. Ça veut dire qu'on va arriver d'ici là, on n'aura plus même une goutte de carburant sous nos terres. Voilà, c'est ce qu'on appelle énergie non renouvelable. Ou, pour être un peu plus précis, les carburants qu'on voit à la pompe actuellement chez nous. Bientôt, nous aurons des carburants renouvelables avec notre projet. Mais les carburants actuels, ce sont des énergies non renouvelables qui, malheureusement, est en train de créer des dégâts très néfastes, madame, à notre planète. La planète, on n'en a qu'une planète. Les scientifiques ont prouvé que si cela continue, si la pollution continue, nous serons immergés dans l'eau. On doit arrêter à exploiter ce genre d'énergie et aller vers ce qu'on appelle les énergies propres. Énergie renouvelable qui ne pollue pas l'atmosphère mais enrichit l'atmosphère par contre. Voilà.
Vous êtes responsable du centre de recherche justement des énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous a motivé à pouvoir créer ce centre?
Sincèrement, quand j'étais en Asie, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses que nos villages manquaient par manque de connaissances. Et je me suis dit pourquoi pas amener cette énergie chez nous. Hein, produire le carburant sur place au village, localement, et l'utiliser localement. Voilà, c'est ce qui m'a motivé en fait. Puisque après avoir fini mes études, j'ai eu beaucoup de marchés qui pouvaient me laisser travailler là-bas ou venir ici pour les contrer. Voilà, et j'ai tout décliné et je suis revenu au pays. En fait, c'est toute une vocation, hein, viabiliser mon village.
Et donc, quand vous avez fait des recherches, vous avez prouvé qu'à partir des plantes, on peut produire du carburant.
Oui, madame, c'était un cours. Pendant qu'on nous enseignait, j'avais trouvé qu'il y avait des histoires qui ne tenaient pas par rapport à la chimie. Et j'ai dit à mon professeur, j'ai dit, mais mon père, qui était médecin, m'empêchait toujours au village de prendre ce qu'on appelle communément au village le Togo. Hein? Chez nous, on appelle ça 500.
L'alcool indigène.
L'alcool indigène, merci madame. Alors, un jour, j'avais posé à papa la question, mais pourquoi tu m'empêches toujours de prendre ça? Il dit, ça, on appelle ça en chimie la méthanol. C'est très corrosif aux dents et ça provoque la cécité. C'est bien sûr 10 GR que tu vois chez village qui n'ont pas des dents. C'est l'excès de cet alcool-là qui a arraché les dents. Si tu vois sur 10 aveugles qui sont au village, c'est l'excès de la méthanol dans le sang qui est parti créer la... Alors, moi, depuis mon enfance, je craignais. Quand on va nous apprendre que non, la méthanol, c'est parmi les intras qu'on peut produire les biocarburants, j'ai dit non, professeur, j'ai dit, si ça doit être corrosif au corps humain, combien de fois dans un moteur? Il me regarde et me dit, tiens, c'est très, je sais que c'est ça, mais ok, tu vas faire ton test sur ça. Tu vas mener des recherches, je vais publier. Là, je te donne, fais-les, comme ça on va voir. J'ai dit oui, je suis prêt. Alors, je me suis mis en œuvre. C'est ce qui m'a donné comme brevet d'innovation. En fait, j'ai démontré que la méthanol est nocive non seulement au corps humain, mais même au moteur diesel. Et j'ai proposé un palliatif qui est l'éthanol. En fait, madame, c'est pas une découverte. Les chimistes connaissent cela, ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai publié, cela, et que beaucoup des industriels en Occident, au Brésil, se sont dit, tiens, c'est vrai, on ne devait pas utiliser.
Donc, le carburant qu'on produit à partir des plantes, c'est quel point déjà que vous utilisez là pour produire ce carburant?
Ouais. Quand nous sommes venus ici en 2006, nous avons commencé par mener nos recherches sur l'huile de palme. En fait, le biocarburant, ce qu'on appelle biodiesel, c'est un carburant qu'on produit à partir des huiles végétales. Toutes sortes d'huiles, n'importe quelle huile usée, propre, sale, on peut produire le biocarburant avec. D'ailleurs, il y a des partenaires sud-africains qui ont préféré qu'on aille créer encore une structure de biocarburant en Afrique du Sud où on va commencer à collecter les huiles de fast-food. On produit le biocarburant et on va à la station. Nous sommes mis à chercher de par le monde et on a découvert qu'il y avait une plante qu'on appelle Jatropha qu'on utilise déjà en Inde, et la France l'utilisait déjà depuis 1946 pour fabriquer le savon de Marseille, hein, savon à multiples usages. Alors, c'est là que nous sommes allés, on a dit qu'on peut en trouver ici chez nous. Le jour que j'ai vu les atrophas pour la première fois, j'étais étonné. Parce que c'est l'arbre, l'arbre du avec lequel moi je joue avec au village. Hein? Donc, j'ai dit tiens, et ça, c'est, chez nous on appelle ça au côté. Hein? Les frères qui me suivent, ils connaissent au côté. Cet arbre est utilisé pour clôturer, les parcelles et faire des haies de champs, des parfaits, et puis séparer des grands étendues de champs chez nous au village. J'ai dit tiens, c'est ça, j'ai trouvé ça, mais c'est ça au côté chez moi. Comme ça, mis à mener des ressources là-dessus, on nous a aidés par les deux scientifiques hein, qui utilisaient déjà. Et voilà, on est reparti en Asie pour aller s'enquérir de machines qu'il fallait utiliser. Et nous sommes revenus, on a commencé à produire nos propres machines à nous d'abord pour extraire l'huile, on appelle ça presse-huile, et après la machine, la raffinerie. Donc, nous avons opté pour l'arbre d'atropha, qu'on appelle opoté chez moi. Au Bas-Congo, on appelle ça Mpuluka.
Kinshasa, en Lingala, comment on appelle ça?
À Lingala, bon, c'est à Col. À la périphérie, à Machine Siforko, il y en a. Machine Kimonzagar, hein, là où c'est périurbain. Au plateau, il y en a, sauvagement. Alors, nous avons, et le ricin aussi, puisque nous produisons le biocarburant et le lidocia.
Vous produisez en quantité industrielle?
Non, madame. C'est un centre de recherche. Si nous sortons, c'est puisque nous avons fini, nos recherches. Nous avons une raffinerie d'une capacité de 2000 litres jour, donc 2 mètres cubes jour. Nous sommes saturés par la demande, très saturés. Et ceux qui ont des groupes électrogènes viennent s'approvisionner. Les fameux bus D107 Mercedes qui font le transport en commun Kinshasa.
Et donc le biocarburant, ce n'est pas seulement pour les véhicules, même pour d'autres usages.
Oui, madame. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez 5 litres pour 2 heures, 5 litres fossiles magiques à la pompe, vous mettez dans le micro pour 2 heures du temps, vous prenez le même 5 litres de biocarburant, vous mettez, ça va faire 6 heures du temps.
Vous dites que vous êtes saturé dans la production parce que vous n'avez pas d'appui.
Oui, on est saturé. Comment? Puisque nous avons, après avoir testé, parce que le centre a ses propres moyens de transport. Hein, le centre a 3 bus et 1 camion. 4 moteurs groupe électrogène. Des petites, moyennes et grandes capacités. C'est ce que nous avons utilisé pour. C'était comme nos cobayes. Alors, après avoir terminé, nous sommes dit, bon voilà, qu'on intéresse un peu le privé. Ces privés-là, dès qu'ils se sont, ils sont entrés en contact avec notre produit, ils ne voulaient plus acheter à la pompe. Alors, ils venaient tous les matins, on en a besoin. Le centre n'a pas trop de moyens pour continuer à produire, c'était pour les besoins de recherche. Et cette fois-ci, ce que nous voulons, si vous pouvez me permettre de faire un appel aux autorités politiques administratives, de prendre cette énergie, comme une énergie hautement stratégique. Madame, un pays ne peut pas se développer sans énergie. Un politicien m'avait dit une fois, il a dit, le biocarburant est capable de créer l'exode urbain. Pourquoi, madame? C'est un produit qui sera produit, je m'excuse pour la technologie, sur place au niveau local, utilisé localement. Je m'en vais vous donner un exemple à l'Est. Le président de la République, même ici dans le Bandundu, le président de la République avait fait cadeau à plusieurs entités décentralisées, des groupes de 70 AVA. Mais ces groupes-là ont des problèmes aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas ravitaillés en énergie, ils n'ont pas de carburant de machine pour fonctionner chaque jour. Mais si nous allions tout simplement mettre une raffinerie à côté et commencer à produire, le groupe va produire l'énergie va créer de l'emploi. Il y aura les soudeurs qui vont souder des vélos, des motos, il y aura des bars qui vont commencer à fonctionner avec la bière froide. Voilà. Donc, l'énergie, elle est très importante en milieu rural, sur le plan purement économique et social.
Le biocarburant peut être utilisé dans n'importe quel véhicule.
Madame, c'est là où nous avons les projets d'innovation. Puisqu'en France, il y a ce qu'on appelle le biocarburant E85. Ça veut dire que cette formule-là, c'est un carburant hybride. On prend 85% du carburant fossile, on mélange avec 15% seulement des carburants bio. On appelle ça E85. Mais nous, ici, avec notre formule, c'est 100%. On ne touche pas au moteur. Donc, vous allez à la pompe comme tout le monde, vous prenez, vous vous servez. 100% bio, vous pouvez utiliser. Vous pouvez les mélanger 50% bio, 50% fossile, ou 100%. Ça veut dire, là où il n'y a pas le bio, et que vous avez en panne sèche, et qu'il y a les fossiles, vous pouvez prendre les mazout et vous mettez. Voilà un peu l'innovation qu'on a créée ici au pays, d'une formule un peu plus puissante que d'autres formules que nous connaissons de par le monde. Hein.
Et quels sont les avantages de ce biocarburant?
Du point de vue
technique, par exemple.
Du point de vue technique, hein.
Économique et social. Hein.
Voilà. J'aimerais d'abord un peu parler un peu du point de vue environnemental. Madame, le biocarburant va nous sortir du sentier battu de l'Occident. Si nous l'adoptons aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est l'Occident qui est à la base, en grande majorité, de la pollution, avec les gros industries, les véhicules, tout ça. La ville de Gauteng en Afrique du Sud, qui comprend Pretoria, Jobo, a plus de 3 millions de voitures, madame. Donc, quelle pollution que cette ville, la ville a produit. Et, par contre, le biocarburant, en plantant seulement les jatropins, c'est, on appelle ça plante à piège à carbone. Donc, les jatropins, un état de jatropins ou de ricin, retient 20 tonnes par an de dioxyde de carbone. Ça diminue la pollution. Mais quand vous produisez maintenant, vous consommez les biocarburants des jatropins, au lieu que vous produisez 98% de pollution, vous produisez 99,9% de carburant propre. Donc, vous comprenez que sur le plan environnemental, l'écosystème, la planète va respirer si nous produisons plus de biocarburant que le fossile. Ça, c'est l'avantage. Du point de vue agronomique, madame, vous savez que dans notre pays ici, le prix de maïs, le prix de foufou, le prix des denrées alimentaires, en fait, tout ce qu'il y a de denrées alimentaires de base est influencé toujours par le prix à la pompe. Nous venons de. On vient de majorer le prix des carburants la semaine passée ici, au pays. Et ce prix-là influence le prix de ce qu'on appelle écolo de maïs. Mais si nous prenons nos tracteurs et que nous mettons les biocarburants dedans, au lieu que nous produisons, par exemple, une mesure de maïs de 1 kg à 1 dollar avec le fossile, avec le bio, nous allons, moi je le produis déjà au plateau, nous allons produire 1 kg de maïs à 0,35. C'est plus qu'on a utilisé le bio. Vous comprenez que sur le plan agricole, ça va augmenter la production agricole, ça va industrialiser notre agriculture et du point de vue économique, notre production, le coût de production sera tellement bas que le panier de la ménagère va se retrouver et manger à sa faim. Du point de vue technique, le biocarburant protège mieux le moteur diesel et le fossile.
Est-ce que le biocarburant peut être utilisé dans nos stations service?
Oui, madame. C'est ça le projet. Nous avons, après avoir terminé ce que nous avons mené des recherches, on a publié, maintenant nous produisons pour une petite consommation quand même. Hein, parce que le centre en a 3 autobus, 3 minibus qui utilisent le biocarburant chaque jour, ça fait 18 mois. Voilà. Donc, notre objectif maintenant, c'est de produire des stations. Hein, puisque, au lieu de vendre ça à partir de bidons, nous voulons produire des stations. En Suède, il y en a. En Allemagne, il y en a. On en a visité aussi en Hollande. Il y a des stations bio. Voilà.
Est-ce que vous avez vu, par exemple, le ministère des hydrocarbures pour discuter avec le gouvernement concernant les moyens qu'on peut vous donner pour arriver à faire des stations?
Bon, ben, madame, je vous dirais que les démarches sont en cours pour ne pas être pessimiste, puisque nous avons frappé partout. On a d'abord le ministère des ressources scientifiques, c'est le ministère de tutelle. C'est là-bas que j'allais déposer mon brevet. Vous voyez? Et c'est le ministère, je crois, des ressources scientifiques qui devait nous relayer par d'autres ministères pour dire bon, tiens, voilà, il y a un Congolais qui a fait ça à votre niveau, vous voyez ce que vous pouvez faire avec lui, ainsi de suite. J'ai demandé de vous donner un exemple. J'ai été invité au ministère de l'énergie au niveau du secrétariat général, j'ai exposé sur le biocarburant. Et il y avait des résolutions qui étaient prises, puisqu'il y avait les conseils des ministres lui-même qui étaient là, le secrétaire général à l'énergie était là, et tous les directeurs concernés par l'énergie renouvelable. Ça fait de cela maintenant plus de 7 mois qu'on a exposé, qu'on attend. Voilà. Donc nous pensons que du point de vue administratif, notre pays souffre encore un peu d'une lenteur qui s'améliore chaque jour aussi, nous voyons, mais on attend, voilà.
Et vous-même, vous utilisez votre biocarburant?
Oui, madame, ma jupe qui est dehors fonctionne à biocarburant, ça fait maintenant 2 ans. Je ne connais aucun problème technique. Parce que si j'avais la fiche technique, j'allais vous montrer, on avait prélevé 5 litres de biocarburant qu'on avait envoyé au Japon, dans un centre un peu plus performant que nous. On nous a envoyé la fiche physique de ce qu'on produisait comparativement au fossile. Madame, c'est vraiment très encourageant d'utiliser les biocarburants. Et notre centre ne produit pas seulement les biocarburants, mais le centre produit le biogaz sur moi à la maison, madame. Je n'achète pas le macala.
Vous utilisez du gaz?
Voilà, je produis les gaz avec mes propres ordures ménagères. Voilà, et on peut industrialiser ça aussi.
Vous produisez aussi l'oxygène dans votre centre?
Le centre produit aussi de l'hydrogène. J'ai une pipe à essence qui me consomme du saumon à mon gaffe jusqu'au centre-ville, environ 20 litres pour arriver à aller-retour. Alors, j'ai hybridé cette pipe-là avec un appareil qu'on a eu la formule à partir de l'extérieur. On nous a envoyé ça, je ne l'ai pas inventé. On nous a donné la formule, j'ai appliqué, et ma voiture roule avec de l'eau et de l'essence. Alors, le centre-ville, maintenant, je consomme 2 litres et demi. 20 litres d'eau plus 2 litres et demi d'essence, je vais au centre-ville, je retourne. Voilà, madame.
Avec 2 litres d'essence seulement?
Oui, mais 20 litres d'eau.
20 litres d'eau.
Qui produit de l'hydrogène et qui est consommé directement dans le moteur, mélangé un peu avec de l'essence, voilà, et vous avez l'énergie. Et nous avons aussi un tracteur au niveau du plateau, puisque nous avons une ONG qui a été créée pour encadrer les paysans dans la production de la matière première. Et l'hôtel de ville de Kinshasa nous a donné 15 tracteurs au travers du ministère de l'Agriculture. Les tracteurs-là, ce sont les John Deere qui font 16 litres ou 20 litres maximum par hectare de fossiles. Qu'est-ce qu'on a fait? On a hybridé cela. Nous avons maintenant 4 litres de fossiles. Si c'est le biocarburant, c'est 2 litres. 2 litres de biocarburant plus 17 litres d'eau, ça vous laboure 1 hectare, madame. Ce sont des preuves que nous avons ici à Kinshasa, nulle part ailleurs, ici.
Et vous allez vous limiter à Kinshasa seulement, ou vous serez aussi en province?
Nous lançons un appel aux hommes d'affaires. Aux politiciens, on en a déjà, la politique administrative. Toutes les lettres sont passées partout. Je ne sais pas où est-ce que j'ai pas écrit, en tout cas. C'est partout, en train de poser. Mais ici, j'aimerais faire appel aux hommes d'affaires congolais, surtout en province. Surtout en province, ceux qui peuvent écouter, qui rentrent en contact avec nous, nous allons leur proposer des business plans qu'ils vont voir, on va leur proposer, business plan, un projet qui pèse eux-mêmes viabiliser et commencer à produire les biocarburants dans leurs provinces respectives. Nous sommes un centre de recherche, on a besoin de ceux qui ont maintenant l'argent pour qu'on produise en quantité industrielle et dans toute la République démocratique du Congo, madame.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Grand Témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Emmanuel Koloando Chikala, chercheur responsable du Centre de recherche des énergies renouvelables. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Vous allez me donner vos numéros de contact ou bien adresse email pour les personnes qui aimeraient bien entrer en contact avec vous, Monsieur Koloando.
Oui, madame, volontiers. D'abord, je vous parle d'adresse email, c'est CRERB@gmail.com. Donc, je peux répondre encore. C R E erb@gmail.com.
Et votre numéro de contact?
Le numéro de contact, c'est un service information. Alors, c'est ce numéro-là que je vais donner.
Il n'y a pas de problème.
Voilà. 089-87-97-088. 089-87-97-088. Ou le 081-50-18-375. 081-50-18-385. Et nos bureaux, les bureaux du centre, nous avons des bureaux, le centre est à Mongafula, mais les bureaux sont au stade des Martyrs, entre 7, local 8-9. Donc pour ceux qui sont à ça, ils peuvent passer au stade des Martyrs, entre 7, local 8-9. Il y a tout un service là-bas, dispo, pour accueillir tous ceux qui sont intéressés au biocarburant et pourquoi pas tous ceux qui pèsent se lancer dans la production à grande échelle, qu'on en a vraiment besoin, madame, pour que qu'on réduise le coût de production de la dépendance énergétique que notre pays connaît actuellement.
Vous avez donné votre adresse email, l'adresse de vos bureaux. En plus de ça, vous avez donné deux numéros de téléphone. Donc, ceux qui sont intéressés pourront vous contacter par ces numéros de téléphone. On a un dernier mot avant de nous séparer, M. Emmanuel Coloando.
Oui, merci madame. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Radio Capi. Vraiment, c'est une première dans notre pays. Qu'un chercheur trouve l'endroit où il peut s'exprimer, parler de ce qu'il fait, parce que c'est pas vraiment, dans les temps il n'y en avait pas, mais vraiment Radio Capi nous a vraiment ouvert les portes, nous remercions Radio Capi pour ça. Et mon appel, c'est, je vais réitérer mon appel auprès des autorités politico-administratives. Madame, je vais Drobi, ici je vais faire un appel spécial à nos chefs de l'État. La République d'Angola, qui produit 2 millions de litres de carburant fossile, vient d'initier un projet d'atrophie de 500 000 hectares. Le gouvernement du Mali vient d'obliger à chaque collectivité du Mali, chaque collectivité, que les paysans de chaque collectivité produisent plus ou moins 2 hectares, je me suis dit, 2 tonnes de d'atrophie dans chaque collectivité. Et pourquoi pas nous ici? Nous avons un président visionnaire, j'ai cité le président de la République, j'en appelle à sa grande personnalité, qu'il puisse d'une façon personnelle prendre en charge ce projet pour le bien-être de, surtout des paysans congolais, que je plaide. Nous manquons l'énergie au niveau rural, on en a besoin. J'en appelle aussi aux hommes d'affaires qui peuvent financer. Créer eux-mêmes leurs propres entreprises de biocarburants, leurs propres stations. Le centre de recherche est là, prêt à vous donner et la technologie et l'expertise.
Merci Emmanuel Coloando Chikala, c'est la fin de Grand Témoin. Kelly Kouté avait le plaisir de vous présenter cette émission. Merci à la technique. Je rappelle que je recevais pour vous Emmanuel Coloando Chikala, chercheur responsable du Centre de recherche des énergies renouvelables. J'ai écouté cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net, mon type de programme sur la fréquence de la paix.